Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, c'est la une de l'hebdomadaire, Ukraine, la résistance d'un peuple. Bonjour Denis Siffer.
Bonjour.
Votre édito, les défaites de Poutine, des défaites qui ne font pas la victoire des Européens, nous y reviendrons. Vladimir Poutine a, écrivez-vous, d'ores et déjà perdu plusieurs batailles, et la première, celle qui détermine toutes les autres, celle de la bataille de l'opinion qui condamne la Russie à l'isolement.
Oui, c'est en effet une bataille très importante, d'une part parce qu'elle a des effets économiques absolument ravageurs, non seulement pour Poutine, pour les oligarques, mais aussi pour le peuple russe, donc qui à un moment donné risque quand même de réagir par rapport au régime de Poutine, mais aussi parce que cet isolement qui résulte de cette défaite est durable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer en Ukraine. On imagine qu'il va finir plus ou moins par écraser la résistance ukrainienne parce que le rapport de force est tel qu'on ne peut pas imaginer autre chose. Mais bien au-delà, Poutine va rester isolé et va rendre, disons, sa tâche impossible au plan international et peut-être même à l'intérieur même de la Russie. Donc ça, c'est une défaite très grave qui, évidemment, ne sauve pas, disons, les Ukrainiens de ce qui, hélas, risque de les attendre et ce qu'ils subissent déjà. Mais du point de vue géopolitique et du point de vue de politique intérieure russe, ça change tout.
Une défaite idéologique qui se mesure à l'ampleur des mobilisations populaires un peu partout en Europe.
Oui, c'est-à-dire que la défaite de l'image et de l'opinion, elle se mesure à ces manifestations qui sont très importantes, à peu près dans beaucoup de pays qui se réclament d'une culture démocratique, disons, hein. Très imparfaite d'ailleurs, mais enfin qui est quand même mieux que ce qui existe en Russie ou en Biélorussie. Ça se mesure à ça, et ça se mesure aussi, et peut-être que ceci est la conséquence de cela, l'unité européenne qui s'est construite sur les sanctions et qui résulte sans doute de la mobilisation de l'opinion aussi. Et donc tout ça transforme Poutine en paria et la Russie, le peuple russe aussi, hélas, parce qu'il n'y est pour rien.
Et tout cela pousse le président russe à la surenchère jusqu'à la terrifiante menace nucléaire.
Oui, on l'a vu, il a fait allusion à ça, une allusion très claire. Et effectivement, on peut se demander, moi je n'ai pas une lecture, disons, uniquement géopolitique, et je me méfie d'ailleurs des analyses qui ne sont que ça, c'est-à-dire le pétrole, l'influence économique, etc. Il y a aussi une donnée évidente psychologique, identitaire, culturelle, je dirais même, parce que ce qui fait peur à Poutine, c'est beaucoup moins l'OTAN, quoi qu'il en dise, que ce que ça représente dans son imaginaire, c'est-à-dire la culture occidentale, une certaine liberté, la démocratie, les arts, la culture, une culture, la musique, le cinéma, etc., enfin un art libre. Et tout ça, effectivement, il le redoute beaucoup plus, à mon avis, que l'OTAN. Et ça, ça fait partie, ça, des buts de guerre, à mon avis, de Poutine, peut-être beaucoup plus encore que simplement le Donbass et les ressources économiques de l'Ukraine.
Et vous écrivez que Vladimir Poutine a lancé une guerre dans un espace politique où se joue la question même de l'identité européenne.
Oui, alors ça, bon, c'est un bémol que j'apporterai, disons, je suis tout à fait réconforté par les sanctions, par l'unité européenne qui s'est construite, etc., et même au-delà de l'Europe, mais je ne peux pas ne pas penser à ce qui s'est passé en Syrie, où la même communauté internationale a complètement abandonné les Syriens à leur sort et à la barbarie de Bachar el-Assad et de Poutine. Je ne peux pas ne pas penser que Poutine y a vu un encouragement à aller plus loin, et peut-être n'y aurait-il pas eu l'Ukraine si il y avait eu des réactions plus fermes sur la Syrie. Et je ne peux pas non plus ne pas voir là, disons, une sorte de discrimination dont il faut se féliciter, parce que tant que les Ukrainiens en profitent de la solidarité, de la façon dont les Polonais, par exemple, reçoivent les Ukrainiens, c'est pas tout à fait celle avec laquelle ils ont reçu ou refusé de recevoir les Syriens, par exemple, ou même les Afghans. Donc on ne peut pas ne pas penser à tout ça, à ce deux poids, deux mesures, Et c'est en cela qu'il y a, on peut dire que c'est une guerre qui se joue dans l'espace européen et où les Européens se disent que les Ukrainiens leur ressemblent. Et je me porte en faux contre cette idée qui est malheureusement un préjugé, parce que je pense que les Syriens aussi nous ressemblent en humanité et évidemment on ne peut pas faire de telles discriminations, et peu importe les différences de religion, les différences de couleur de peau, mais malheureusement c'est comme ça. Et bon, quand les Ukrainiens profitent de cela, tant mieux, mais quand les Syriens sont abandonnés, hélas, c'est très difficile à supporter.
Cette guerre en Ukraine, oui, peut laisser le sentiment d'une occultation de la campagne présidentielle, mais vous écrivez que la crise ukrainienne transporte nos débats vers des sujets qui ne sont pas tout à fait indignes d'une campagne présidentielle.
Oui, alors moi aussi, je m'élève contre ce discours, enfin, qui est compréhensible. D'ailleurs, on nous a volé la campagne présidentielle, c'est-à-dire il n'y a pas de campagne présidentielle. Enfin, là, on est face à un sujet qui est totalement essentiel à une campagne présidentielle. Et pour une fois que la France est contrainte de se poser des questions internationales qui la concernent directement, je pense qu'il y a de quoi, en effet, jauger chaque candidat, comment chacun se comporte dans cette situation, ça n'est pas rien. Ceux qui font amende honorable, ceux qui font pas amende honorable, ceux qui persistent dans leur poutinisme aigu, et tout ça, donc ça donne quand même aux électeurs des critères de jugement qui sont pas négligeables.
On évoquait les défaites qui ne font pas la victoire, hein, des Européens. Il faut reconnaître que les défaites idéologiques de Vladimir Poutine ne font pas notre victoire, écrivez-vous à la fin de votre édito. Cela, c'est fondamental aussi.
Oui, parce que l'Europe, en effet, là, a fait son unité. Bon, c'est, tout le monde était étonné, d'ailleurs, de la vitesse qu'elle s'est faite et de l'ampleur de cette unité. Et puis, armer les Ukrainiens, même l'Union européenne elle-même, et puis chaque État séparément, y compris l'Allemagne qui se réarme, etc. Bon, tout ça, dans l'immédiat, c'est positif pour les Ukrainiens, si tant est que ça ait un effet suffisamment rapide pour leur éviter le massacre. Mais c'est pas l'Europe dont on rêve. Cette Europe remilitarisée, et de toute façon, on peut dire que sur ce plan-là, Poutine va subir certainement une défaite politique majeure à terme, mais au-delà de ça, il nous impose sa conception, disons, de la communauté internationale et même sa conception de l'Europe, enfin, de toute façon, c'est-à-dire une Europe militarisée, nucléarisée, enfin sur le pied de guerre, et c'est pas du tout l'Europe pacifique et sociale dont on pourrait rêver.
Merci, Denis Suffer.
Merci à vous.
La une de Politis, Ukraine, la résistance d'un peuple, et votre édito, les défaites de Poutine.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.